à parler, Pierre, à parler. Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être venu à cette conférence sur les 10 ans du Diable Vauvert, car nous fêtons cette année les 10 ans de cette maison d'édition qui est née en octobre 2000, Marion. Voilà, on a tout un plateau d'invités avec nous, la dirigeante, je ne sais pas quel qualificatif, j'allais dire la grande prêtresse, mais je ne suis pas sûr que ce soit très... Enfin, la bosse, quoi, c'est elle. Le chef du diable, c'est pas mal. Marion Mazorik, donc, qui a créé le Diable Vauvert en octobre 2000. Elle va nous raconter un petit peu toute cette aventure. À sa gauche, nous avons Pierre Bordage, que vous connaissez sans doute, qui a publié de nombreux livres au Diable Vauvert jusqu'il y a pas longtemps, hein, incessamment sous peu, avec Les Derniers Hommes, tout simplement. Nous avons Juan Miguel Aguilera, qui... donc a publié La Folie de Dieu, notamment au Diable, il y a 10 ans, puisque c'était un des premiers titres sortis, voilà, qui sera assisté à la traduction par Adriana Rousseau, voilà, qui est là. Nous avons China Mieville, qui a publié notamment L'Ombre chez le Diable. Et ça, c'est une sortie relativement récente, 2 ans maintenant, voilà, qui sera assistée à la traduction par Lionel Davoust. Voilà pour le tour de table un petit peu. Marion, la première question, elle est un petit peu pour toi. Il y a 10 ans, tu décides de créer une maison d'édition, le Diable Vauvert. Juste, je fais une petite parenthèse, on va avoir des couvertures du Diable qui vont tourner en fond. Voilà, pour une petite illustration, puis ça nous permettra un moment de parler du graphisme, enfin de choses comme ça. Il y a 10 ans, tu lances le Diable. Quelle est ton idée? Pourquoi avoir décidé de lancer ta propre maison d'édition?
Alors, lancer ma propre maison d'édition, en fait, c'est pour des questions personnelles. C'est pour retourner travailler, vivre et faire mon métier dans mon pays, c'est-à-dire dans le Sud. Sachant que j'étais extrêmement heureuse chez J'ai lu et que j'étais une éditrice assez comblée en étant directrice littéraire de J'ai lu, où il y avait la SF, la littérature, les pratiques, Nouvelle Génération, le Librio, enfin, un univers éditorial qui me ravissait. La motivation, elle a vraiment été d'aller faire mon métier dans mon pays. Donc, à partir de là, avec un petit peu de... au même niveau d'intensité intellectuelle, émotionnelle et professionnelle que ce que j'avais vécu chez J'ai lu, je voyais que la création d'une maison, je me voyais assez peu faire une collection, tout ça, ça aurait été un abandon. Alors après, la maison, quelle maison créer? C'est vrai que le concept du diable, en fait, il commençait à revenir depuis un an. Depuis, en fait, 2 choses. Nouvelle Génération, où j'avais commencé à publier, d'ailleurs, Demain une Oasis, mais aussi Poppy Bright, le Korexki. C'est-à-dire une collection de littérature où, pour moi, il était important de replacer dans le même mouvement tous les écrivains qui émergeaient des cultures qui commençaient à émerger en l'an 2000, mais qui émergeaient quand on travaillait chez J'ai lu. Les cultures du gore, les cultures du fantastique, les cultures hyper réalistes, les cultures, enfin, le Korexki de Poppy Bright, c'est un titre exceptionnel qui sort 4 ans avant Bret Easton Ellis' American Psycho et qui est quelque chose de très cousin. Donc, si vous voulez, c'était un pôle d'observation assez extraordinaire pour voir arriver de différents horizons les littératures imaginaires, mais aussi la littérature ironique, réaliste, anglaise ou américaine, des voix qui étaient en fait très comparables et séparées par des questions de genre, qui n'importe pas en matière de création, importe en matière de commercialisation. Et je me disais qu'il fallait créer en France un imprint à l'anglo-saxonne capable de dire « voilà la littérature contemporaine qui est en train d'émerger des pulp cultures ». C'était avant Pulp Fiction, en fait. Donc, si vous voulez, c'était vraiment un mouvement qui est aussi celui de ma génération. J'ai le même âge que... Je crois que Tarantino est un peu plus vieux, mais où on comprend comment ça arrive... Et ça, le besoin éditorial, en France, il n'y avait pas de maison comme ça. C'est-à-dire que Neil Gaiman n'avait pas d'éditeur grand format, Ayerdal n'avait pas d'éditeur grand format, Pierre Bordage avait un éditeur grand format, La Talente en science-fiction, mais on travaillait ensemble et il avait envie de faire des choses et où les mettre. Gibson, ça ne marchait pas, personne ne voulait le publier en grand format. Et les auteurs, plus généralement, Poppy Bright, ce n'était pas considéré comme de la littérature, Dépend, qui est arrivé à peu près à ce moment-là, idem. Et si vous voulez, le même refus esthétique et politique et esthétique, artistique, en fait, s'exerçait de la même façon sur des segments différents. Donc l'idée, c'était une maison à l'anglo-saxonne, effectivement, dans un pays où travailler à l'anglo-saxonne, travailler avec 10 ans d'avance. Et je me disais, 10 ans d'avance, ben, en gros, ça va marcher à la 10e année. Et je voyais ça comme une autoroute très simple. Et d'ailleurs, on a fait ça, ce que je... Je pensais que la fortune et les 100 000 pour Pierre iraient plus vite, mais ça reste objectif.
Comment sont faits les premiers choix, les premiers auteurs que tu décides de lancer en octobre 2001?
Là, ça a été assez cruel parce que, évidemment, j'avais fait Millénaire. Il y avait eu l'arrivée des Français depuis 10 ans dans J'ai lu science-fiction avec des marqueurs quand même qui sont importants, l'anthologie de Deman. Donc, si vous voulez, il y avait l'embarras du choix. On était en plus, depuis les années 80, dans une période qui était absolument bénie en littérature. Hein, c'est là qu'on voit. Alors, il y a à la fois les grands anglo-saxons qui sont les monstres de la SF, qui sont ici, hein, bien sûr, qui étaient dans le catalogue de J'ai lu, qui n'avaient pas non plus d'éditeur grand format. Il y avait tous les nouveaux de Millénaire extraordinaires. Il y avait ceux qui étaient acquis et qui n'étaient pas encore sortis, comme Macaulay, comme Walter John Williams. Mais il y avait Mary Gentle, il y avait Stephen Baxter, il y avait qui vous vouliez. Et moi, je ne me trompais pas, je pense, sur le fait que quand on n'a pas de fortune personnelle, ce qui est mon cas, dans le système capitaliste, que les banquiers m'ont largement répété en 10 ans, en gros, on n'a aucune chance de faire face au développement. Bon, j'étais assez mûre en édition, parce que quand on a travaillé chez J'ai lu 15 ans dans un groupe, on travaillait avec les indépendants, on ne se fait pas trop d'illusions, donc j'avais pas d'illusions en démarrant. Hein. Et ma motivation n'était pas de gagner de l'argent, sinon vous pensez bien que j'aurais fait de la pizza. Quoi. C'était vraiment d'aller vivre et travailler au pays, donc la fortune, je m'en fous, l'argent, je m'en fous, j'étais très libre et j'avais assez gagné ma vie pour avoir pas de soucis. J'avais un toit, une maison, un mari, un enfant, un cheval, un chien, voilà, libre. Donc l'idée, c'est si tu as les yeux plus gros que le ventre, d'abord tu vas prendre des auteurs que tu ne défendras pas, et tu ne peux pas publier tout le monde, tu n'es plus chez J'ai lu. En plus, l'idée, c'est que le concept était à maturité. C'est-à-dire, tous ces auteurs qui étaient très forts, bon, on va prendre Neil Gaiman, Bordage à Heyerdahl, qui sont quand même des auteurs puissants à l'époque, qui ont vendu déjà plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en poche, c'est évident qu'en poche, ils vont tout de suite marcher. Je ne pensais pas que ce serait si difficile dans le domaine du mainstream d'arriver à. Enfin, je voyais les résultats un peu au-delà. J'avais aussi l'habitude des gros moyens de maison. Enfin, il a fallu choisir et je savais qu'il fallait en vendre très peu. Donc voilà ce que j'ai choisi pour constituer le diable. Bordage, Heyerdahl, Gaiman, Gibson, Moreau, Butler. Et voilà, dans le catalogue du diable. Se sont ajoutés tout de suite et très vite Coupland. Après, il y a eu l'acquisition de Welsh. Mais malheureusement, je dirais, enfin, j'ai dit James Moreau. Hein. Le meilleur, ça ne veut rien dire du tout, effectivement, parce que j'ai beaucoup pleuré sur Baxter, Macaulay, Walter John Williams. Quand Clive Barker est passé, c'était trop. J'avais beaucoup de traductions, j'avais des Foster Wallace, 800 pages de traductions. J'ai acheté Infinity Jest la première année. Ça a été difficile, mais en même temps, vous voyez le cartel, quoi. C'est comme si vous aviez la main gagnante au poker, que vous prenez le meilleur que des prix Hugo, des prix du Nebula, enfin vous voyez de qui je parle. Donc je ne le regrette pas. C'était pour moi les plus importants.
Pour revenir à cette période hein, de la fin des années 2000, Pierre, comment est-ce que toi tu as vécu l'arrivée du Diable Vauvert ?
Eh ben, j'avais travaillé déjà depuis plus longtemps avec Marion, puisque j'ai travaillé chez J'ai lu, j'ai fait 3 inédits chez J'ai lu avec Marion, et puis avec Marion, on proposait toujours des trucs un peu bizarres. Donc, entre autres, Les Derniers Hommes, c'était un feuilleton Librio qui était sorti, un petit fascicule à 2 francs, 2 euros, 10 francs, voilà, 2 euros maintenant. À l'époque, donc c'était relever des défis avec Marion. Voilà. C'est vrai que j'étais installé dans un autre type de science-fiction qui était plutôt space opéra, tout ça. Et puis, donc Marion a édité les premiers livres en poche chez J'ai lu, Il y a le silence et Wong, je crois. Et donc elle me dit, je fais des inédits, est-ce que tu veux essayer un truc? Donc je me suis dit, voilà, peut-être une nouvelle voie pour moi, explorer une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle forme d'écriture. Et donc, chez J'ai lu, j'ai fait Les Derniers Hommes, donc avec cette idée de feuilleton, j'ai fait Les Fables de l'Impur, et Atlantis, qui était aussi un autre projet, c'était un univers monde avec un jeu vidéo, et moi je devais faire le roman dans l'univers du jeu vidéo. J'étais allé voir le scénariste, et puis je lui ai demandé quelles étaient ses frustrations, et un scénariste de jeu vidéo a beaucoup de frustrations, parce que les impératifs techniques l'empêchent d'aller là où il veut vraiment aller. Et donc je me suis installé dans ces frustrations, parce que moi j'ai tous les droits, pas d'investissement très lourd, hein. Tant que le mot n'est pas déposé d'ailleurs. Mais il y a un petit malin qui va déposer les mots un jour. Et donc j'ai fait ce roman-là, Atlantis. Et puis Marion est partie monter sa maison d'édition à Vauvert. Et elle m'a dit, si je monte ma maison d'édition, tu n'aurais pas me faire un livre pour moi et tout. Et j'ai dit, oui, bien sûr, hein, ça m'avait intéressé de travailler pour elle chez J'ai lu. Et je lui ai dit oui. Puis en plus, à La Talente, j'ai poursuivi une veine. Je continue toujours de travailler pour La Talente. Je poursuis une veine qui est beaucoup plus science-fictive, effectivement. Et je me suis dit, l'occasion pour moi, encore une fois, d'expérimenter les nouvelles formes d'écriture plus contemporaines. J'ai toujours eu un peu peur de me frotter au contemporain, parce que si je n'ai pas de décalage imaginaire, j'ai l'impression que ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai travaillé dans une veine très légèrement décalée, mais plutôt contemporaine, ce qui pour moi était un autre rapport à l'écriture. Pour le space opéra, par exemple, c'est une écriture très premier degré, parce que j'ai l'impression que si on ébranle la construction imaginaire, le lecteur va sortir. Et donc ça nous interdit, à mon sens, hein, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça nous interdit de jouer trop avec la langue, puisque le principe de base, c'est le récit. Et comme dans les récits épiques, il faut toujours qu'on soit serré sur le récit. C'est très frustrant parfois, parce que c'est une écriture extrêmement classique. Et là, avec des romans contemporains, on sait qu'on n'a pas de risque de déstabiliser le lecteur avec des notions purement imaginaires. Donc on peut carrément jouer avec la langue sans que le lecteur sorte du livre, puisqu'il sait ce que c'est qu'une bagnole en général. Enfin, il sait ce que c'est que l'URSS, ou il sait ce que c'est que la Chine, etc. Et donc dans le contemporain, ça permet un jeu avec l'écriture qui est de l'ordre du deuxième degré, ou beaucoup plus de souplesse, à mon avis. Et donc, voilà, j'ai travaillé dans ce sens-là pour Le Diable Vauvert avec des anticipations à très, très court terme, donc dans la trilogie des prophéties, avec l'Évangile du Serpent, l'Ange de l'Abîme et le Chemin de Damas. Ensuite, j'ai fait Porteur d'âme, non, c'est ça, ouais. Qui est un thriller très contemporain avec un tout petit élément de science-fictif, mais qui sont pour moi plus des romans sociaux, finalement. Le Feu de Dieu, qui est un apocalyptique, mais très proche. Bon, voilà, donc Le Diable a vraiment permis à moi d'explorer une autre voie, de me familiariser avec un type d'écriture, et aussi de contrebalancer cette espèce de corset qu'on se met, que je me mets peut-être inutilement d'ailleurs, quand on est dans des univers purement imaginaires. Et après, bosser avec Marion, c'est bosser avec Marion, que je veux dire. C'est bosser avec une sorte de boule incandescente, voire légèrement nucléaire. Mais elle est géniale parce que, évidemment, comme tout auteur, je suis quelqu'un qui suis bourré de doutes. Et quand j'envoie un manuscrit à Marion, je suis mort de trouille. Et pendant 3 semaines, évidemment, parce que les
c'est
auteurs...
C'est pas parce que c'est moi, c'est parce qu'il est mort de trouille quand il envoie un manuscrit. Hein. Non, là, je
non, mais attends, j'ai pas fini. Non, parce que les éditeurs, ils sont marrants. Ils sont toujours pressés d'avoir les manuscrits. Il faut avoir les manuscrits. Et puis, quand ils ont les manuscrits, ils nous font attendre, nous, les auteurs. Quoi. C'est-à-dire que nous, du coup, on est pressés de savoir ce qu'ils en pensent. Et eux, ils sont pas pressés. Et c'est, bon, c'est une petite vengeance, j'ai l'impression. Et après, j'ai le résultat de Marion, qui a lu mon manuscrit, qui m'appelle en général, il me dit « Pierre, tu es grand, tu es génial. » Et d'un seul coup, mon ego qui était vachement bas, se retrouve regonflé. Et après, elle me dit « Bon, mais il y a ça qui, bon, faut corriger ça peut-être et tout, mais voilà. » Et c'est plutôt plaisant pour un auteur, parce que je pense qu'on est dans des zones de doute permanent sur le texte, et qu'on a besoin d'un œil extérieur. Si cet œil est bienveillant d'emblée, c'est quand même super agréable. Donc j'ai toujours aimé beaucoup travailler avec Le Diable, même si c'est un peu chaotique parfois, mais c'est diabolique aussi. Donc, et puis avec tout un esprit qui est beaucoup plus rock'n'roll que la moyenne des éditions.
C'est ce que tu attendais de Pierre en termes de texte ?
Oui, parce que je dirais que tout texte qui arrive de Pierre, je l'attends. Enfin, en fait, c'est une maison d'auteur. La différence entre Le Diable Vauvert et puis mes expériences antérieures, par exemple avec Millénaire ou avec Nouvelle Génération, c'est que c'est des collections qui marquent une époque avec des auteurs qui viennent, qui font des livres qui ne seront pas forcément suivis. Enfin, c'était le principe à l'époque. Et Le Diable, c'est vraiment une maison qui a été créée pour accompagner des auteurs, donc des démarches, et faire les livres. Je ne fais pas des livres et puis après je vais chercher les auteurs qui vont les faire. Par exemple, sur les formats, je dois avoir dans mon sac C'est de l'eau de David Foster Wallace. Moi, je pense qu'un éditeur comme Le Diable, il doit faire les formats qui vont avec les livres que ces auteurs écrivent, que les auteurs ont envie de publier. Donc, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le chemin d'un livre à l'autre. Et c'est, avec Pierre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours une surprise. C'est toujours, on a du mal à être éditeur en lisant un livre de Pierre, c'est-à-dire à lire avec un crayon, en réfléchissant, on a envie de le lire en mangeant du chocolat dans son canapé, comme n'importe quelle personne normalement constituée. Il faut quand même brancher son cerveau critique, parce que c'est ce que l'auteur attend, évidemment. Et moi, pourtant, de livre en livre, chaque fois, c'est une surprise nouvelle. Et si c'est pas... Bon, en plus, il a plein de projets et d'histoires à raconter. C'est un peu comme un auteur comme Gaiman ou King. C'est des conteurs qui... parce qu'il y a plein d'auteurs différents, bien sûr, et qui ont des processus différents. Enfin, toi, tu es un inventeur d'histoire, et donc à un moment donné, il choisit l'histoire qui, au moment de sa vie et de la vie du monde, lui semble la plus adéquate, et c'est chaque fois un livre différent et une surprise. Là, on a réédité justement Les Derniers Hobbes et Les Fables de l'Impur pour les faire lire, parce que je pense que le diable, avec son positionnement, peut amener aussi des lecteurs différents, des lecteurs de l'ASF, hein, ça, je pense qu'on en a fait l'expérience. C'est très important, parce que L'Impur, quand on le relit 10 ans après, c'est un livre magnifique, ça ne se lit pas du tout comme un livre de SF, c'est un roman d'amour dans un script plutôt médiéval, finalement, dans l'ambiance. Depuis, d'ailleurs, il était très précurseur, parce qu'on a vu dans la littérature contemporaine des démarches assez comparables, venir travailler sur des zones proches. On prend les Derniers Hommes, c'est un livre qui est encore meilleur aujourd'hui, qui n'a pas pris une ride, qui est encore meilleur aujourd'hui. Et alors on voit très lisiblement quel est l'écrivain Pierre Bordage, qui vient du feuilleton, qui vient de l'épique, qui vient de la grande tradition des grands narrateurs, qui va de Homère à Zola et à Bordage, pour aller très très vite, c'est un raccourci si rapide. Mais voilà, et on sent le rythme du feuilleton, et c'est redoutable. Donc c'est, je dirais qu'à chaque fois que Pierre a une idée, je me dis si c'est au diable, en plus c'est un peu le concept, c'est pas des suites, c'est à chaque fois un livre. Donc le fait que ce soit toujours un livre différent en soi me réjouit. Et le livre, il se trouve, me réjouit. Ça s'est jamais arrivé que je sois déçue par un livre de Pierre. Je pense que ça veut pas dire que je me suis beaucoup posé la question de est-ce qu'un éditeur, au bout d'un moment, est capable de conserver un esprit critique avec un auteur dont il aime tout. Est-ce que, par exemple, ce n'est pas un peu le seuil de Peters, vous arrivez à un certain nombre d'années et vous n'êtes plus capable de sortir la moindre critique à un auteur parce que de livre en livre, vous trouvez tout ça toujours bien. Alors, est-ce que ce n'est pas que j'ai baissé, par exemple? Je pourrais me poser la question. Eh bien, je réponds non, parce que je vois qu'en fait, ce n'est pas vrai. Le critère de surprise, de ravissement, le curseur, il a plutôt tendance à monter. Donc je pense que... Je serais capable d'être déçu, quoi. Si je ne le suis pas, c'est parce que vraiment le livre, il n'a rien de décevant, quoi. Voilà. C'est peut-être un peu prétentieux.
Je crois que le temps est venu de renégocier les avaloirs.
Vous avez compris, le Pierre Bordage vieillit bien. Voilà. Buvez-en. Une petite question donc pour Juan Miguel Aguilera, qui a fait partie aussi des premiers. Alors, une double question, une espèce de dialogue. Comment est-ce que tu l'as découvert? Et Juan, comment est-ce que tu as découvert Marion et le Diable Vauvert?
Je suis obligée de répondre en premier parce qu'on s'est connus bien après que j'ai connu son livre. Donc à la création de la maison, Vauvert, entre Montpellier et Nîmes, c'est près de l'Espagne. C'est sûr que quand on crée une maison là-bas, on a un peu des... Bon, on est forcément... tout de suite, on a été présent sur le numérique, on a été en réseau, on est forcément... on est tellement décentralisé dans un pays hyper centralisé qu'il faut... cultiver ce positionnement différent. Quoi. Ta différence est ta première force. De toute façon, c'est un peu la loi du samouraï. Toutes tes faiblesses sont tes forces. Donc la faiblesse d'être installé à Vauvert, c'est la force d'être au centre de l'Europe du Sud et d'être à côté de la capitale de l'Europe du Sud demain, Montpellier. Et c'est d'être au cœur du Languedoc-Roussillon, région qui est la dernière de France au sens la plus pauvre, mais qui est en même temps sans doute une des premières de France au sens symbolique, historique, enfin voilà. Donc c'est vrai que le projet de s'installer en région, il est complet et c'est aussi pour être chez soi vraiment, quoi. Donc évidemment tout de suite Barcelone, quoi, c'est la capitale d'à côté, je suis allée à Barcelone et puis à Madrid, en profitant d'un voyage taurin, et tout de suite, je me suis dit, je veux publier des Espagnols. Alors, le concept du diable, c'est pas du tout d'être exhaustif sur des bassins linguistiques. Et puis, il y a des langues que je pratique pas. L'espagnol, pas vraiment bien, mais enfin, je connais un petit peu. Et donc, je suis allée dans les librairies à Madrid et en Espagne. Et là, j'ai discuté avec les libraires, comme il faut faire. Hein, parce que les libraires, voilà, c'est eux qui connaissent l'ensemble. Et puis je me suis baladée dans les rayons. Et puis il y avait une hypothèse qui était que la littérature anglo-saxonne, cette génération de nouveaux romanciers français, Heyerdahl, Bordage, et bien cette génération-là, qui a été suivie de bien d'autres, le phénomène était le même en Espagne. C'est-à-dire que les livres américains et les auteurs anglo-saxons et la science-fiction et tout son background avaient forcément créé chez les écrivains espagnols des écrivains qui allaient arriver. On était en 2000, donc il y a 10 ans, qui étaient en train d'arriver. On avait vu déjà arriver en Italie, Evangelisti, etc. Et moi, je voulais aller voir ce qui se faisait en Espagne. J'étais sûre que ça arrivait. C'est d'autant plus intéressant quand on connaît l'Espagne. Le choc des cultures est forcément générateur de... Parce que c'est quand même le pays du réalisme magique aussi. Enfin, c'est un... Voilà, quand on connaît l'Espagne, forcément, ça doit faire un mélange d'étonnant. Et donc, je suis allée demander aux libraires, c'est qui, eux, les gars qui font de la science-fiction en ce moment en Espagne, ils existent forcément comme des Américains et plus comme des Espagnols, mais en même temps que sont une main espagnole. Et ils m'ont dit, et un libraire génial à Madrid m'a dit, il y en a deux. Non, il m'a donné Aguilera, il m'a donné Juan Miguel, qui était déjà connu, enfin, qui avait une vraie réputation, qui allait bientôt travailler sur son film, qui était déjà un auteur reconnu en Espagne. Et puis un autre que j'ai trouvé, un énorme pavé, qui était très bizarroïde, et c'était Ibáñez, Le monde selon Varick. Et voilà, et donc on a fait trois livres avec Juan Miguel, et Juan Miguel est un écrivain que j'apprécie énormément. C'est un petit peu difficile les Espagnols en France, je dois dire, c'est-à-dire qu'on a eu un très bon résultat sur La folie de Dieu, et puis la France s'intéresse moins à la littérature espagnole qu'à la littérature anglo-saxonne, donc j'ai un petit peu réduit les publications, mais c'est un chemin qu'on continue, d'autant que Juan Mi, lui aussi, il a son chemin personnel de la SF au space op, au roman historique, au fantastique. Il a une grande érudition. Il a plein d'univers très proches du diable à explorer et qui continue à explorer, même dans son dernier livre.
Juan Miguel.
Bueno, para mí, yo conocí a Marion justamente en la primera. El primer Epinal que se celebró, bueno, el primer Epinal era en Nantes, había habido otros anteriores. Y ella ya había comprado el libro y me parece que hicieron una cena ese primer año en un barco y fue allí donde nos conocimos. Y realmente, ¿sí quieres traducir esto ya?
¿La conociste en Epinal?
Sí, perdón, he dicho Epinal. En Nantes, he dicho Epinal. En las Utopiales, ¿veis las Utopiales? ¿Estáis...? Tengo la cabeza un poco mal.
Vale, entonces, ¿la conociste?
Sí, en el primer año, en las primeras utopiales de Nantes, en el año 2000.
Dans l'année 2000, je suis venue pour la première fois aux utopiales de Nantes et j'ai connu Marion. On avait eu un dîner.
Sí. Y bueno, ella ya había comprado mi libro en España.
Marion avait acheté les livres... de Miguel en España.
Nos conocimos y bueno, y me habló de su casa de edición, de cómo lo tenía planteado, cómo lo imaginaba, y a mí me pareció algo increíble, ¿no? Un poco el tipo de editor que ha soñado siempre.
Elle m'a parlé de sa maison d'édition, elle m'a parlé de ses projets, et ça m'a semblé complètement incroyable. C'était mon éditeur de rêve, celui que j'avais toujours voulu rencontrer.
Básicamente su teoría era que tienes libertad absoluta para hacer lo que quieras y como editora yo elijo las cosas que me gusta editar y en esas cosas le dedico el máximo en cuanto a para tener el libro con un objeto final hermoso, una buena portada, una buena traducción, todo muy cuidado.
Son sistema es de laisser la plus grande libertad a los autores, puis évidemment là-dedans elle choisit ce qu'elle veut. Et quand elle a choisi, elle donne le plus grand soin au livre, pas seulement comme traduction, mais aussi comme un bel objet, d'avoir une belle couverture et tout. Elle penche sur le livre, elle en fait quelque chose de bien.
Claro, yo venía de las editoriales españolas que son muy duras y todo esto me pareció maravilloso. Sobre todo esta posibilidad de tener esta libertad y que alguien... se ocupara de llevarlo a la gente de tu trabajo de una forma tan profesional.
Je venais du milieu des écrivains espagnols et ça m'a paru vraiment merveilleux que quelqu'un ici qui se préoccupait de prendre mon livre, de le porter aux gens et de le faire connaître.
Luego hemos estado, bueno, ya han pasado 10 años desde entonces y quieres
10 ans ont passé entre-temps.
Y en estos 10 años, pues, he publicado varios libros en Odiale Bauer y siempre esa primera sensación luego se confirmó año tras año. Y la verdad es que luego es muy bonito conocer la editorial allí en Bauer. Es como un ambiente muy familiar de amor a los libros y es un sitio muy agradable también para visitar la propia editorial.
Dans les 10 ans qui ont passé depuis, j'ai publié plusieurs livres auprès du Diable va au vert et ça me fascine de voir l'évolution de la maison d'édition et je me sens là-dedans comme en famille.
Sí,
comme en famille.
Sí, he visitado la propia editorial, está en medio de rodeada de viñedos en Bauer, muchos mosquitos también, pero es un sitio muy agradable para relajarse y escribir. Y sobre todo esa sensación de un sitio familiar donde se trabaja por los libros.
J'ai été visiter la maison d'édition dans un endroit magnifique, dans des vignobles. Bon, il y a pas mal de moustiques, mais à part ça, c'est magnifique pour se relaxer, c'est un endroit pour écrire et c'est un milieu très familial.
Para mí, ya que empecé a conocerlos en las utopiales, para mí la Odiale Bauer es un poco una utopía, es decir, ojalá las editoriales, los libros y el amor de la gente por la editorial pudiera ser así, esto pudiera funcionar realmente, esa forma de trabajar.
C'est bien que je l'ai connu dans les utopiales parce que pour moi ça a été l'utopie cette maison d'édition. Je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler comme ça et que ça allait marcher et c'était formidable. Waouh.
J'ai vu Shina Mieville prendre le micro. Il avait peut-être. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? D'accord. Ok, très bien, ça viendra, t'inquiète pas. Simplement pour parler, alors on est au début, je voudrais aborder deux aspects. D'abord l'aspect graphique, comment est-ce que vous avez travaillé, quelles étaient tes envies graphiquement, car les livres du Diable Vauvert ne ressemblent pas aux autres livres.
Bah, forcément oui, si on crée une maison, on n'a pas d'argent, il faut opérer une identification autrement que par des campagnes marketing. Et là, alors en fait l'idée, voilà, c'est ce qu'on mesure bien dans les grands groupes, dans les grandes maisons, et c'est pas du tout un discours anti-grand groupe que je vais mener, parce que moi j'étais une éditrice heureuse dans les groupes, avec toutes les contraintes, en particulier économiques qu'il y a, et même éditoriales. Mais on voit bien que dans les grands groupes, il y a deux tentations. Il y a la tentation qui est, j'ai identifié un marché, je vais faire le livre qui va avec. Et ça, c'est une tentation qui est de plus en plus demandée au cadre d'édition, parce qu'on leur demande du résultat, et on veut du résultat sur un... chaque année, donc 15% de marge, etc. Et donc ça vous conduit quand même à faire un marketing dans lequel vous rentrez des bouquins, mais les bouquins c'est comme des auteurs et des démarches, donc des fois ça coince un peu, ou alors au contraire vous allez demander aux auteurs de rentrer eux-mêmes dès qu'ils écrivent, ou en corrigeant leur texte dans les lignes. C'est un petit peu un tableau à gros traits, hein, mais enfin, et puis il y a une autre façon de faire du marketing, et moi j'avais mesuré que c'était celle-ci qui fonctionnait chez J'ai lu. En gros, si vous voulez, au moment de... Ça a été la grande leçon de Nouvelle Génération. Nouvelle Génération, marketing, ça a coûté 2 500 € à tout casser, c'est-à-dire un dossier de presse, et j'avais demandé une liberté graphique sur les couvertures, un petit dossier de presse, et point. Et on avait monté un marketing à partir de ce concept. Le programme lui-même, c'était un programme marketing, puisque c'était l'idée de mettre ensemble des auteurs. Et les livres devaient parler tout seuls, et ça s'appelait une nouvelle génération de lecteurs, une nouvelle génération d'auteurs pour une nouvelle génération de lecteurs, et donc il n'y a pas moins marketing que ça, et pourtant ça s'appelle du marketing mix. Alors le Diable, en fait, l'idée c'était dans l'édition, en fait, le meilleur marketing est le moins cher, c'est celui qui prend le produit de l'auteur, qui fonctionne à l'envers, mais que seul un indépendant de petite stature financière peut fonctionner. Tu peux pas. C'est trop de risques pour qu'un éditeur et une major fonctionnent sur ce principe, bien sûr. Donc c'était toujours l'idée de si tu transformes tes faiblesses en force. Donc la force marketing d'un indépendant comme le Diable, c'est de pouvoir faire du marketing de haut niveau avec du produit artisanal, une conception artisanale et en parlant du produit. Donc chaque livre doit générer son marketing, chaque univers génère son marketing. Donc être capable graphiquement de désigner en couverture comme une invitation directe l'univers du livre... C'est le B.A.B.A. de l'édition dans le monde entier. C'était seulement pas pratiqué en France, où on fait une maquette d'éditeur et puis on rentre les livres à l'intérieur. Donc en fait, il suffisait d'aller voir en Chine, en Russie et dans le monde anglo-saxon, puisque les Américains, c'est quand même ce qu'on fait de mieux dans l'édition mondiale, pour l'avoir sous les yeux. C'était seulement pas fait en France. C'est tout con. Après, la deuxième hypothèse, c'était que On appelle ça les portadas en espagnol, ces portes ouvertes sur les univers, mises ensemble, allaient montrer ce qu'était l'éditeur. C'est pour ça qu'il a fallu 3 ans pour qu'on comprenne l'éditeur, parce que première année, on avait beaucoup de littérature de l'imaginaire, derrière Nicole. Ensuite, on avait de la littérature anglaise, alors après, c'était la maison de science-fiction. Puis deuxième année, on était la maison des jeunes écrivains branchés. Et puis après, il a fallu 5 ans pour que ça se lisse, il y avait peu de livres. Mais par contre, ce qui a été visible tout de suite, c'était les portadas mises côte à côte et qui dessinaient un univers immédiatement cohérent, celui des cultures contemporaines, qui passe par la couleur, la souplesse, le toucher. Donc, alors, le choix graphique, il commençait par choisir une couverture. Je vais chercher un livre parce que je suis désolée, mais ça se touche. Non, parce qu'un livre, voilà. Un objet quand même, donc on va bientôt passer au numérique. Alors on apprendra comme ça à bien voir les valeurs de chaque, les vertus de chaque type de support. Donc support livre, voilà, ça c'est la réédition des derniers hommes, donc je le conseille à tout le monde parce que c'est encore meilleur quand on le relit. Non, mais franchement, c'est satisfait ou remboursé. En plus, Bordage, ça se relit, c'est-à-dire ceux que vous avez lus il y a 20 ans, vous les relisez aujourd'hui, c'est encore meilleur. C'est comme Rome, vous la voyez une fois, deux fois, trois fois. Voilà, il y a des choses, c'est comme ça. Bon, c'est addictif, c'est du feuilleton. Voilà, alors ce livre, alors je vais lâcher le micro. Non, vous voyez déjà, il a une tactilité, on va dire, il a un truc. Alors ça fait que le lecteur, il en touche un, après il est accro, hein. C'est un peu comme la boisson du diable. C'est purement addictif. C'est-à-dire qu'il a une tactilité qui est toute particulière. Les fibres de la couverture sont imprimées sont dans le même sens que les fibres du papier. Contrairement à... Alors maintenant, c'est des procédés qui ont été repris, ce qui veut dire qu'ils sont bons. Mais à l'époque, on était un peu les premiers. C'est le procédé bouquin, faisait comme ça. Ça vous permet d'avoir une couverture souple, alors que les autres, Grasset, par exemple, prendre un éditeur prestigieux ou Gallimard, ils ont des fibres dans le sens contraire. Donc le bouquin, c'est une petite brique. Et quand il est très épais, il n'est pas si aisé que ça à lire. Alors là, c'est le principe du poche. Donc ça s'ouvre, ça reste ouvert. Donc dans un lit, vous n'avez pas de doigts à mettre au milieu pour vous endormir avec votre auteur préféré. Vous voyez, ça tient. Ça se glisse dans la poche parce que c'est un format 13-18. Donc on est dans un univers semi-poche, trade paperback anglais. Ça se glisse dans la poche. Et alors quand vous le touchez, vous sentez des aspérités. Quand vous le regardez à la lumière, vous voyez des choses. On travaille avec des vernis sans embossage, vernis mat, vernis brillant. Et ça, on a été les premiers à le faire en France. Ça se faisait beaucoup en Angleterre. On a aussi un petit logo qui est un clin d'œil et qui se reconnaît d'un livre à l'autre. Donc l'hypothèse, c'était une collection qui va construire livre à livre avec des stratégies de collection comme dans le poche et pas comme dans le grand format, pas des coups, des choses qui se construisent. Donc le diablotin, très vite, l'hypothèse, c'est que le lecteur reconnaît le diablotin. Quand le lecteur va chercher la marque, il connaît la marque, alors que dans l'édition, on ne connaît jamais le nom de l'éditeur. Donc tout ça a été vachement pensé au départ, et le graphisme, c'était un everyday produce, beautiful, avec des produits cheap. Vous savez, comme on faisait à l'époque, il y avait une mode des sacs à main en plastique qui valait 1 euro et qui était transparent. Il y a eu ça, et dans toutes les couleurs. Et le monde fabrique des produits hyper créés sur du matériau plastique, sur du matériau, d'ailleurs, papier, c'est mieux pour la planète. Bon. Donc l'idée, c'était de faire des livres dans ces esthétiques-là. Donc effectivement, les visuels, il y avait 2 choses. Il y avait chaque livre, c'est son univers, et finalement, les lignes graphiques, vous les verrez arriver, c'est les lignes graphiques par auteur. Donc ça a pris du temps. Donc maintenant, on met des bordages à côté, il y a une collection bordage dans le diable. Sinon, il n'y a pas de collection au diable, sauf 2. Et on a des lignes graphiques qui sont des lignes d'auteur, en fait. Là, je ne peux pas le montrer, j'en ai pas assez, mais je ne sais pas ce qui circule. Ça, c'est une collection de Dog Politique qu'on vient de sortir. Voilà, ça, c'est la littérature. Donc, vous voyez, chaque livre... Alors, l'idée, l'hypothèse, c'est... Si vous aimez la couverture, vous allez adorer le livre. C'est vraiment de partir du contenu pour faire... La couverture, c'est la première étape du marketing. C'est de faire la couverture qui va plaire au lecteur naturel de cet ouvrage. Et par exemple, les couves de pierre, c'est des couves qui doivent aller dans tous les rayons. Parce que les lecteurs de pierre, ça peut être des grands-mères, j'en ai vu, des jeunes garçons, des jeunes filles, des gens de 50 ans, des gens de 30 ans, des gens de 20 ans. Et donc, c'est... À la fois, on doit être à l'aise dans l'univers de la science-fiction, mais aussi aller en mainstream, mais aussi, donc, elles sont... L'écriture trouvée au diable est une des plus réussies pour le livre de Pierre.
Le temps file,
J'aurais eu plein de questions à poser sur la résidence, sur ces boissons, etc. Mais je voulais quand même qu'on parle un petit peu avec Sheena Mieville. Un peu la même question qu'on a de Miguel Aguilera. Comment est-ce que tu as découvert Sheena Mieville? Pourquoi tu as eu envie de l'éditer? Et la même question, comment est-ce que toi, tu as découvert Le Diable Vauvert et Marion? Alors, qui veut répondre en premier? Marion.
Là, vous n'allez pas être... Moi, j'ai découvert Sheena Mieville grâce à Patrice Duvic, comme beaucoup, je pense, qui est le premier qui m'en a parlé, qui l'a publié. Bon, bah, évidemment, c'est un auteur... La maison, elle a été créée pour accueillir... Enfin, c'est Juan Miguel a dit un peu, mais... Moi, ce que j'aime dans la littérature romaine, c'est sa liberté romanesque. Donc, les auteurs sans frontières sont ceux qui me plaisent. Et ce que j'ai reconnu en lisant Sheena de livre en livre, mais surtout, je dois dire, quand j'ai lu L'Ombre, c'est une extrême... À la fois, c'est ce qu'on fait de mieux dans les univers contemporains. Bon, L'Ombre en particulier, c'est un roman qui a une grande morale, leçon écologique magnifique, mais qui reprend, sans le savoir d'ailleurs, l'idée des villes doubles, qui est maintenant une idée installée depuis Neverwhere, etc. Et qui est un roman d'aventure de deux jeunes filles. Enfin, j'ai trouvé qu'il était puissant de s'installer comme ça sur des thèmes qu'on connaissait tous. Hein. Wally sortait au même moment, donc aucun des thèmes de L'Ombre, à proprement parler, n'est un thème original en soi, et le livre l'est complètement, et avec une culture, une éducation. Donc moi, c'est un auteur qui m'a ravi immédiatement de livre en livre, parce que justement il est, mais je dirais un peu égal ou Pierre, à la fois très instruit, très plein de références, et puis dans sa manière de les agencer, complètement nouveau et extrêmement libre. Donc on avait sorti la collection Jeunesse. L'Ombre, quand L'Ombre est sortie, il m'a été proposé, puisque c'était un roman jeunesse, et évidemment j'ai sauté dessus. Et alors, pour la rencontre avec Sheena, j'ai d'abord une rencontre avec l'homme à travers une très belle photo qu'on a mise en deuxième de couverture, et puis voilà, elle vient de se produire ici aux Utopiales, et donc c'est le petit nouveau qui arrive à la table. Il connaît mal la maison, mais je crois que par sa littérature et puisqu'il a vu du catalogue, il la connaît déjà bien sans le savoir.
Alors, je dois dire quelque chose qui me donne honte. Can I say that? OK. Je vais le dire en anglais aussi. Je suis désolé. When I'm trying to... In England, I keep very close attention to the publishing in English, the British publishers and the American publishers, because I understand all the conversations.
En anglais, je fais très attention à l'édition et aux discussions entre éditeurs parce que forcément, je comprends tout ce qui se dit.
I have a foreign agent, a British agent who deals with all foreign rights. And the way I decide who publishes my books in countries where I'm not very fluent in the language is they call me up and they say, somebody wants to publish this book, shall we do it? And I say, okay, yeah, if you think so.
Donc, je suis tout à fait capable de suivre le milieu de l'édition en langue anglaise, mais pour ce qui est des droits étrangers, j'ai un agent anglais qui s'occupe de ça, s'occuper de la publication dans des pays où je ne comprends pas la langue ou que je ne connais pas bien, et donc cet agent m'appelle et me dit, bon, bah voilà, il y a tel pays, tel éditeur dans tel pays qui a envie d'acheter le livre, est-ce qu'on le fait? Et je réponds, oui.
And I want to make clear, I'm not singling out France here. This is the same for Korea, Scandinavia, Japan, Germany, everywhere where I'm not fluent. Now, I trust this agent implicitly. They have done a wonderful job. And when they approached me and said that this offer had come through, they had reasons that they thought it was a good thing. And that's why I said yes.
Donc, la France n'est pas du tout un cas particulier. En l'occurrence, c'est pareil pour tous les pays dont je ne comprends pas la langue, en Scandinavie, en Corée, au Japon. Je fais une confiance implicite à cet agent qui s'occupe des droits étrangers. Il fait un travail merveilleux. Donc, quand il m'a appelé pour me parler, me dire que le diable voulait prendre l'ombre, c'est pour cette raison que j'ai dit oui.
But I have to admit, I feel embarrassed. I feel this is inadequate because we hear these fantastic stories of how the relationship was born, and we hear these amazing stories of the maison where one goes to write, and it's like a family, and it's fantastic, and there's this, it feels in the heart, and I'm embarrassed because I ended up in this as part of this amazing imprint by saying bah ouais, down the phone.
Donc je dois vous admettre que je suis extrêmement gêné et je me sens pas, j'ai l'impression de manquer quelque chose parce que j'entends toutes ces histoires merveilleuses sur la façon dont les relations entre auteur et éditeur sont nées, dont la maison est née, j'entends parler de la maison ou la résidence d'auteur, c'est comme une famille, c'est absolument merveilleux et moi je suis très gêné parce que je me retrouve dans cette fantastique collection, cette fantastique maison, tout simplement parce que j'ai dit un jour, bah ouais.
I mean, obviously, we've been having many conversations, and I think I'm in some ways hypocritical or ambivalent because, on the one hand, I do believe in genre as a kind of taxonomy. I find a great deal to love about the specificity of science fiction. But at the same time, I love also this refusal to submit to generic distinctions that informs the label. And so I want it both ways, and it seems that the imprint does have it both ways, which is exciting.
Mais bien entendu, nous avons beaucoup discuté, nous avons eu bien des conversations, notamment au cours de ce festival, mais j'ai un petit peu une attitude hypocrite ou mettons ambivalente vis-à-vis des genres, c'est-à-dire je crois fermement au genre en tant que taxonomie littéraire et notamment aux spécificités de la science-fiction et ce que cela permet, mais aussi j'aime beaucoup le refus de se soumettre au genre et de la façon dont ces codes peuvent déterminer des lignes ou des collections. Donc j'aime assez avoir le beurre et l'argent du beurre et j'ai l'impression que c'est ce que le diable permet, donc c'est fantastique.
I just want to say one quick more thing, which is it's very interesting to hear Marion talk about the physicality of the book, the tactility, the visuals and so on, because this is something which is being bled away in the era of electronic books. And, you know, for many people now who read electronically, it is simply the words, the physical feel of the book is irrelevant. It will be very interesting to see whether this aesthetic battle you are waging will defeat the ravening hordes of electronic books.
On va faire la même chose avec les electronic books.
C'est intéressant, très intéressant. Je voudrais juste une dernière chose. C'est très intéressant d'entendre Marion parler des qualités physiques du livre, donc le toucher, l'aspect visuel, parce que c'est quelque chose qui s'érode complètement avec le livre électronique. Beaucoup de personnes qui lisent maintenant des livres électroniques ne lisent que le texte en lui-même, et c'est très intéressant de voir si Marion va remporter cette, avec tout ce travail qu'elle fait sur l'aspect graphique, si elle va remporter cette bataille esthétique contre les hordes hurlantes de la publication électronique.
Alors, moi, je ne vois pas les... Comment vous dire, je ne sais pas, je crois qu'un des premiers fondateurs de l'imaginaire, enfin, pas un des premiers, mais enfin, Gibson, le romancien, je l'ai lu un peu, je l'ai lu assez jeune, finalement, et la fréquentation de la science-fiction, forcément, nous amène à considérer, quand on est éditeur, qu'on ne fait pas ce métier parce qu'on est d'abord... imprimeur de papier, mais parce qu'on est producteur d'artistes de l'écrit. Donc si aujourd'hui ou demain, après, ben voilà, si on est dans le post-apocalyptique, on fréquente aussi un peu. Moi, je me suis souvent demandé, bah, tiens, après l'évangile du serpent, on avait des discussions avec Pierre, j'étais très sensible à Vaikai et cette manière de refuser le monde marchand en cessant simplement d'y adhérer et de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire en opposant ça à silence, non-consommation, etc. Mon problème avec l'évangile du serpent, j'admets, ça a été une discussion, c'est oui, mais alors les livres? Alors, je ne peux plus faire mon métier si je suis la philosophie de Vaikai, parce que je ne peux plus produire des livres. Et l'humanité a besoin de livres. Alors, Pierre me disait, Marion, ça sera oral, comme ça l'était. Et là, j'avais un peu de mal avec le gap. Je voyais moins mon boulot le jour où on revient à la tradition orale. Là, je pense que l'éditeur, en fait, c'est celui qui monte la tournée, quoi, du trou vert. Bon. Je suis moins prête la totale désincarnation du livre vers l'oralité, mais je crois que notre métier ne consiste pas du tout à faire du papier, mais à produire des artistes de l'écrit. Et ça veut dire que les formats numériques, c'est un format de plus. Donc moi, j'aime la tactilité du papier, et ce que j'aime avec le numérique, c'est le génie du numérique. C'est sa circulation sans frontières. On va faire des livres numériques. D'ailleurs, notre premier projet, en fait, d'inédit, là, on réédite des livres au format numérique. On commence dès l'année prochaine, on a aussi dû restructurer la maison autour des outils techniques qui vont nous permettre de faire des éditions numériques comme on veut. Mais enfin, on a sorti notre plateforme iPhone, on a publié des livres, on a des livres en format numérique, on va dire, simple et basique, hein, des PDF. On va pouvoir faire beaucoup mieux. Par exemple, tout à l'heure, à défilé la petite collection 20 ans, vous imaginez la version numérique de la collection 20 ans. Si vous mettez toute la paratextualité, là, vous pouvez la rendre. Il vaut 12 euros. Il raconte la vie d'un écrivain à 20 ans, ce livre. Si vous mettez Boris Vian en format numérique et que là où vous arrêtez sur le concert d'un cave jazz, vous pouvez l'écouter, c'est autre chose et ça vaut plus cher que 12 euros. Mais je rêve de faire un feuilleton avec Pierre à 1 euro, c'est un scoop. L'épisode et on le fera. Et on fera du livre numérique parce que le format numérique permet des choses que le papier ne permet pas. Par exemple, la circulation de textes un peu complexe à vendre dans un premier temps au format papier. Il faut savoir que pour vendre 2000 livres, vous en produisez 5000 ou 4500 en papier. Donc il y a un taux de gâchis terrible. Il y a des livres qu'il faudrait pouvoir lancer en numérique, faire du papier après. Imaginez avec le feuilleton et le numérique comme on peut s'amuser. Pour moi, le numérique, c'est un format additionnel et des lecteurs additionnels. Ça n'enlève rien à ce qu'on a déjà, et encore pendant de nombreuses années. En tout cas, celle du diable. Après, on verra. Mais il y a des secteurs où ça n'enlèvera pas. Justement, celui de la conservation. C'est-à-dire quand on voudra garder Shaina Mieville, qu'on aura lu en feuilleton sur numérique, parce que Shaina Mieville, ça va dans la bibliothèque, et tous les jours, je vais pouvoir le toucher, ou sortir une phrase, ou me promener dans le papier comme on ne se promène pas sur une liseuse, on achète le papier. On n'achètera pas le papier de tout le monde. Mais finalement, le diable, il s'est créé pour publier des livres. L'hypothèse d'éditeur, c'est celui-là, il a modifié notre paysage littéraire, il va modifier le vôtre et vous le garderez à vie. C'est comme c'est building, en fait. Donc les textes qu'il construit, c'est des textes auxquels on revient et qu'on consomme sous plusieurs formats. Il faut regarder les usages de consommation des jeunes qui consomment du manga en papier, en vidéo, sous toutes les formes et tous les supports.
J'ai une mauvaise nouvelle, il est 18h56. C'est-à-dire que nous avons 4 minutes exactement pour poser des questions et nous en avons encore plein. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le public? Et vous pouvez poser des questions sur les 200 titres, sur la résidence d'auteur, sur la boisson, sur les prochains titres, parce que ça m'arrangerait, j'ai pas eu le temps de les poser. Est-ce que quelqu'un veut poser une question au Diable Vauvert? Allez-y, soyez pas timide. Personne. Bon, d'accord. Bah, et tant pis. Alors, ça, hein? Juste sur la boisson. Ils sont intéressés par la boisson.
Un pacte avec le diable qui vous donne la vie éternelle, fortune assurée. Enfin,
10 ans, 200 titres.
220.
220. Pardon.
Non, c'est rien. C'est à peu près 20 par an. Enfin, ça a été 20 par an. Maintenant, c'est 30.
Quel bilan? C'est difficile en 3 minutes maintenant. Mais quel état aujourd'hui?
Bilan. Attends, bilan en 10 ans, c'est une année où on fait le bilan. Bah, d'abord, on est toujours vivant. On a démontré que l'hypothèse était viable. Elle est, je pense qu'à 10 ans, on a, pour un éditeur hein, de ce modèle-là et économique et de ce modèle littéraire qui a besoin de temps, on a fait la moitié du chemin et je pense la plus dure au sens, la plus dangereuse, la plus celle où ça vous est. On a passé en particulier la phase du développement. En fait, il faut savoir que quand on fait, parce que tout à l'heure, Juan Miguel disait une utopie, ça c'est la partie vue des textes, et c'est vrai qu'elle est le bilan, là, il est magnifique, le bilan vue des textes et des auteurs et de ceux qui arrivent, donc Bassi Galoupi, tous ceux qui sont dans le catalogue et qui vont s'y épanouir, et puis d'autres, dont Paolo Bassi Galoupi, qui a gagné le prix Hugo avec Shaina, donc c'est quand même une belle, mais... Bon, ça, c'est la récompense immédiate. Après, l'envers du décor, c'est que c'est quand même pendant 10 ans, c'est struggle for life, c'est-à-dire que quand vous êtes indépendant et que vous n'avez pas des... Il faut financer le moyen long terme. Et si vous n'êtes pas très fortuné, vous financez le moyen long terme à la force des livres comme ça et arriver à croître en lissant, c'est un exercice très compliqué. Alors, à 10 ans, je pense qu'on a fait le plus dur et qu'on va tranquillement vers les 20 ans. Et ces 20 ans, en gros, où un éditeur, regardez Anne-Marie Métayer, Liana Lévy, La Talente, hein, une réussite extraordinaire sur un schéma de développement assez différent. C'est la Talente. Enfin, eux, ils ont été bons dès le début, mais sur le plan de la solidité, c'est, il faut 20 ans un éditeur. Donc 10 ans, c'est un bon bilan parce que je dirais que c'est maintenant, avec le numérique et tout, qu'on va commencer à travailler avec des moyens et avec plus de surface, je pense, quoi. On a triplé en chiffre d'affaires en 10 ans. On a doublé la production, on est passé de 15 à 30 titres. Et on a ouvert tous les segments d'une maison de littérature générale. Donc je crois que maintenant on a le catalogue qui dessine bien qu'on va commencer à s'amuser à faire des et puis à faire fortune. Enfin, vous voyez, là on rentre dans les 10 ans bien, quoi. Et avec Pierre, on a laissé, c'est l'année du confort, de la paix, de la sérénité, des centaines de milliers de lecteurs.
Merci beaucoup, merci à vous. Vous avez compris, n'hésitez pas à toucher les livres du Diable Vauvert en librairie. Voilà, merci à tous.